Voilà, c'est un privilège et une joie pour moi d'être là avec vous, hein, de vous suivre de loin et de voir le progrès, l'évolution. Il y en a qui mettent des nouvelles sur Facebook, alors je vois ça aussi. Et c'est un plaisir de vous voir tous. Hein, ça, la salle va avoir pas suffire pour toujours, hein, mais c'est un bon problème. Et que le Seigneur continue à bénir, vous encourage. Et puis, peu importe d'où les gens viennent, hein. Il paraît qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, mais bon, c'est pas grave. Le Seigneur écrit et il reçoit tous. Hein. Pour nous, il fait pas de distinction. J'aime toujours repenser à cela dans l'Apocalypse où Jean regardait dans le ciel et puis il voit cette multitude. Et puis après, il se dit, tiens, il y a des gens de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Et comment est-ce qu'il a vu ça? C'est pas parce qu'on était tous habillés en blanc et on se ressemblait comme deux moutons. Hein. C'est parce que la variété se voyait. Et cette variété rend gloire à Dieu. Hein, donc il l'accentue même. Et j'aime beaucoup cela. Comme je disais tout à l'heure, un frère... Je suis international dans ma tête. Hein. Donc, ne vous fiez pas au fait que je m'appelle Steve Barnes. Hein. On est là pour célébrer une réalité. C'est la venue de Christ. Et dans le premier cantique qu'on a chanté, j'ai vu cette expression, le Verbe incarné. Finalement, c'est ça, mon thème pour ce matin, c'est ce Verbe incarné. On va l'appeler la parole de Dieu. Hein, c'est la parole de Dieu, c'est le Verbe. Et la parole de Dieu qui descend. Dans le langage courant, le mot parole, c'est uniquement des sons qui répondent à un certain code et qui permettent de transmettre des pensées. Et c'est des sons qui sont formulés par des organes phoniques. Et c'est ça une parole, dans le langage courant. Mais dans la Bible, parole, c'est plus que cela. Et surtout quand on parle de parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est pas seulement ses pensées, mais c'est aussi sa volonté, c'est aussi sa puissance. En fait, il nous le présente comme une personne. Et c'est pour ça que j'aime l'expression le Verbe, c'est une personne. La parole de Dieu est une personne. Pas seulement un son qui transmet un message et puis on en fait ce qu'on veut. Cette parole dans le Nouveau Testament, il l'a appelée Logos, mais finalement il est là depuis la création. Il a suffi que la parole soit dite pour que le monde soit. C'était pas seulement une pensée qui a été exprimée. Il y avait un pouvoir et c'est une parole qui avait en elle le pouvoir de s'exécuter, de se réaliser. Elle n'avait pas besoin que ça aille chez quelqu'un qui lui exerce, hein, comme quand je donne un ordre à un enfant, je lui dis écoute, ramasse ta chambre, mais après c'est lui qui fait le travail. Hein, ben c'est bon, c'est pour ça qu'il se plaint. Mais quand Dieu dit, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour l'exécuter, la parole l'exécute. Hein, donc, quand on pense à parole de Dieu, on pense à une puissance, une pensée, une volonté. Et puis, ce qui est le message de l'Évangile, c'est que cette parole, eh bien, elle prenne un corps. Quand Jésus a dit au flot et au vent de se taire, elles se sont tues. Malgré toutes les lois physiques qui étaient contraires, elles se sont calmées. Quand Jésus a dit à Lazare, sors, non seulement est-ce qu'il a repris vie, mais en plus, alors qu'il était bandé de la tête aux pieds, il est sorti. Parce qu'il s'agissait de la parole de Dieu. Et donc, ce que je veux, c'est que, en tant que chrétien parfois, et on on va voir, et on va justement commencer avec le peuple d'Israël, mais ils avaient l'impression que la parole de Dieu, ben, c'est quelque chose, on entend, et puis après on décide ce qu'on fait avec. Alors que quand on entend la parole de Dieu, on a affaire avec une personne. Avant d'aller plus loin, prions. Père, ici on traite de sujets qui sont au-delà de nos capacités. Et puis on est en train de parler à des enfants qui te sont précieux, pour qui tu as payé très cher. Certains le sont déjà, certains tu voudrais qu'ils le soient. Et Seigneur, ce que nous allons dire est très important et nous voulons l'entendre afin de pouvoir le vivre. Père, glorifie ton nom ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais voir d'abord cette parole qui descend sur le mont Sinaï. Alors, si prenez vos Bibles et regardez dans Exode chapitre 19, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Cela faisait 400 ans qu'ils étaient là. 400 ans, 430 ans, ils n'avaient pas entendu une seule parole de la part de Dieu. En fait, vous savez, entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, quand Dieu reprend la parole, il y a aussi 400 ans. Hein. Et pendant 400 ans, ils n'ont rien entendu. Et puis là, tout d'un coup, Dieu intervient et il se sert de Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et je vous lirai, vous pourrez lire dans les chapitres qui précèdent comment Dieu l'a fait. Hein. Mais il les a fait sortir, ce n'était pas juste pour leur montrer de quoi il était capable, mais c'est parce qu'il voulait leur parler. Et il va les conduire jusqu'au mont Sinaï. Et là, il va vouloir leur parler. Dans le chapitre 19, au verset 8, hein, je vous ai donné le temps de le trouver. Et au verset 8, le peuple tout entier répondit à Moïse et donc à Dieu, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Il dit qu'il parle, nous ferons tout ce qu'il dit. Mais pour eux, la parole de Dieu, c'était peut-être une liste de commandements, c'était une liste de souhaits, c'était voilà, des recommandations. Et il dit, nous ferons tout ce... Ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils étaient incapables de le faire. Et ils s'engageaient à quelque chose, d'abord parce que, bon, Dieu ne se fâche pas parce qu'il bon, il comprend leur intention. Hein. Hein, c'est un peu comme le petit gamin qui dit à maman, maman, n'aie pas peur, moi je m'occupe de toi. Et un peu, bon, le désir est honorable. Et ils disent, nous ferons tout ce qu'il dira. Et puis Dieu sait, parce qu'il sait ce que contient l'avenir et il sait que ce ne sera pas vrai. Hein, ça ne prendra pas longtemps pour désobéir. Mais ce que Dieu veut, il insiste, il dit, je veux les marquer, je veux laisser une impression sur leur esprit, je veux qu'ils aient une impression indélébile de ce que c'est que quand Dieu parle. Et alors, il leur fait entendre sa voix. Dieu, la parole de Dieu, nous, notre parole a besoin d'un organe qui fait des sons, hein. Pharynx, on a les capacités de faire des bruits compréhensibles parce qu'on s'est donné un code. Dieu n'a pas besoin de bouche pour parler. Dieu parle et dans sa parole, il y a la capacité d'arriver jusqu'à nous et on a l'impression de l'avoir entendu par nos oreilles ou il peut nous marquer directement dans notre esprit, hein, et nous parle et on est sûr qu'il nous a parlé. Hein, et il y avait même, il pouvait inspirer, et notre Bible, nous l'avons par inspiration. C'est sa pensée, sa parole que l'écrivain a compris et qu'il a transmise avec fidélité. « les enfants d'Israël sont là devant la montagne, ils se sont préparés pendant 3 jours, ils se sont sanctifiés, puis on a fixé les limites, ne pas s'approcher plus que certains points, et puis ils voient le feu descendre, la montagne tremble et tout tremble, et finalement c'est une scène, et j'emploierai le mot effroyable, mais effroyable dans le sens, dans le bon sens. Ça a effrayé, mais ce n'était pas pour effrayer, c'était pour marquer, pour impressionner. C'est au tel point que quand Dieu parlait sur ce mont Sinaï, bien les gens tremblaient. Ils étaient devenus mal à l'aise alors que c'est Dieu qui parle. Et c'est dans sa grâce qu'il parle. Il n'avait pas parlé à notre peuple que ce peuple-là. C'était un privilège. Mais quand Dieu a parlé, ce peuple était, on pourrait dire, plus mal à l'aise qu'une fourmi sur un tambour. Hein. Ils ont dit, Moïse, écoute, ça va, ça vient, ça y est, ça suffit, on a compris. Maintenant qu'il te parle et tu nous parles, ça ira mieux. Et au chapitre 20 et au verset 19, eh bien, l'idée plaît à Dieu. Je lis à partir du verset 18, il dit « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. C'est-à-dire, si la parole de Dieu avait l'effet voulu que Dieu voulait, hein, avait l'effet voulu sur ma vie, eh bien, ça m'éloignerait du péché. On connaît bien ce verset du psalmiste qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre moi. » Ça, c'est bien plus que fixer des versets bibliques dans la mémoire. Parce que moi, je connais des gens qui connaissent des versets bibliques et qui se comportent... Vous avez compris. C'est pas seulement de pouvoir mettre des versets bibliques dans la mémoire. Mais il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin qu'elle ait l'effet voulu, c'est-à-dire de m'éloigner du péché, afin que je ne pêche plus. Et si j'arrive à encore pécher, si j'ai encore pratiqué les choses sans me sentir coupable, sans être gêné, sans me sentir sale, c'est que la parole de Dieu n'a pas encore agi dans ma vie comme Dieu voudrait qu'elle agisse. Moïse dit, n'ayez pas crainte. Ce n'est pas pour vous détruire qu'il vous parle de cette manière. C'est pour vous laisser une impression telle que vous n'aurez plus envie de pécher. Quarante ans plus tard, Moïse reprend tout ce qu'ils ont vécu. Déjà, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert, mais justement, c'est à cause de leur désobéissance. Et donc, si vous allez avec moi dans Deutéronome et au chapitre 5, on pourrait lire dans le chapitre 4, déjà, il commence à en parler, il reprend ses paroles. Et au chapitre 4, verset 12, il dit « L'Éternel vous parla au milieu du feu, vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. » Il publia son alliance. Et c'est à ce moment-là, hein, quand Dieu parlait, c'est là où il a donné ce qu'on appelle les 10 commandements, hein, le décalogue. C'est à ce moment-là qu'il l'a donné. Ils l'ont entendu, c'est pas seulement qu'ils l'ont lu sur des tablettes. Vous savez, les tablettes, c'est vieux, hein, ça existe depuis la Bible. Hein, et Jésus a dû écrire avec le doigt même, hein, sur sa tablette. On ne fait que réinventer ce que Dieu a déjà créé. Hein. Mais là, ils l'ont entendu, les 10 commandements. C'est pas seulement qu'ils l'ont lu, ils l'ont entendu. Et il leur rappelle, vous avez entendu les voix, la voix de Dieu. Vous n'avez pas vu une représentation, donc vous ne pouvez pas la reproduire, et vous n'avez pas à reproduire de représentation quelconque que vous appellerez Dieu. Au chapitre 5 et au verset 22, il dit, « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. » Voilà, il reprend 40 ans plus tard, il dit, « Voilà, vous vous souvenez, c'est exactement comme cela s'est passé. » Bon, entre-temps, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont nés, qui n'ont pas vu tout cela. Et donc, c'est important pour eux de le savoir et d'avoir le témoignage, l'approbation des plus âgés qui disent, oui, c'est exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et le peuple, il leur rappelle, et vous vous souvenez, à l'époque, vous aviez réclamé que Dieu me parle et que je vous transmette ses pensées. Et donc, si nous lisons le verset 27 et 28, donc de Deutéronome 5, il dit, « Approche-toi et écoute ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, « J'ai entendu les paroles de ce peuple, que ce peuple t'a adressé. Tout ce qu'ils ont dit est bien. » Dieu dit, « Ah, là, et même il ajoute au verset 29, il dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Vous vous souvenez le jour où vous avez découvert l'Évangile? Ah, vous preniez votre Bible et vous n'arriviez pas à lire assez. Vous êtes resté toute la nuit à lire. Vous lisiez des chapitres, vous dévoriez les versets. Qu'est-ce qu'il dit encore là-dessus? Puis on a reçu un appel. Pasteur, qu'est-ce que ça a dit là-dessus? Mais tu as vu l'heure, il est minuit. Oui, mais pasteur, j'ai besoin d'entendre. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il dit, et Dieu dit, oh, c'est beau quand ils sont comme ça, ils ont cette attitude où ils veulent entendre. Il dit, je sais que ça ne dure pas toujours. Mais oh, c'est agréable quand c'est là. Peut-être il nous faudrait rafraîchir un peu. Et alors, Dieu approuve. Il dit, oui, ce qu'ils disent, c'est très bien. Que la parole, eh bien, qu'elle leur soit transmise, et qu'elle leur soit transmise au travers d'une personne physique qui la leur transmette. Ils disent, c'est une bonne idée. Ils ont bien parlé. Et Dieu va garder cette idée. Et si je continue, donc avec cette même pensée, j'arrive à Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, et là, Moïse va nous annoncer quelque chose où Dieu reprend cette idée et puis il fait une promesse. Donc jusque-là, ce que nous avons vu, c'est quand la parole de Dieu descend sur le Sinaï, et maintenant, il nous prépare pour la parole de Dieu qui va descendre à Bethléem. Mais regardez dans Deutéronome chapitre 18, et écoutez, je vais lire un peu le contexte quand même. Alors on va commencer au verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. vous l'écouterez. Hein, c'est Moïse qui parle. Verset 16, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Alors, deux choses. Il dit, je vous fais la promesse. Vous l'avez demandé, vous l'avez voulu, c'est très bien que la parole puisse être incarnée, qu'elle puisse être communiquée à travers d'une personne. Il dit, et Moïse, il ne sera pas là pour toujours. Donc, ce serait une bonne chose qu'on trouve quelqu'un qui puisse être là pour toujours. Et puis, il dit, et lui, quand il parlera, eh bien, d'abord, il transmettra ma pensée, mes paroles, et sa parole aura toute la puissance que j'ai. Mais il dit, en plus, celui qui entendra ses paroles, il sera tenu responsable. C'est pas seulement, ben écoute, comme j'écoute France Info, hein. Bon, j'écoute, j'écoute pas, je capte pas, c'est pas important, hein, ça change rien. Mais il a dit, mais moi, quand je parle, c'est pas pareil. Il vous faudra tenir compte parce que vous serez tenu responsable. Vous savez, on va passer à un autre stade. C'est pas juste le petit bébé Jésus mignon et dire, ah, oh, c'est beau. C'est toujours beau quand un bébé naît. Et tous les bébés sont beaux, même s'ils ne sont pas beaux, hein, ils sont beaux. Mais ici, c'est autre chose. Moïse dit, et c'est Dieu qui l'annonce, il dit, il y aura un prophète, autre que toi, mais comme toi. Je le susciterai et je l'enverrai. Eh bien, ce prophète, contrairement à ce que peuvent nous dire les musulmans, si vous avez eu des discussions avec les musulmans, eh bien, il s'agit de Jésus-Christ. Hein? Et regardez dans Actes chapitre 3, c'est l'apôtre Pierre qui nous l'identifie, hein? Donc c'est pas nous qui essayons de trouver une explication, mais c'est Pierre qui en parle dans Actes chapitre 3, verset 21. Je vais commencer à lire au début de la phrase. Donc au verset 19, Paul est en train de parler, il vient de guérir le paralytique dans le temple là, et puis cette foule s'est rassemblée, alors Pierre il n'a pas eu d'autre idée que de prêcher, hein. Il a vu du monde qui le regardait, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné » Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre les frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Voilà. Il reprend exactement cette parole. Il dit, là, celui auquel pensait Dieu quand il l'a dit par la bouche de Moïse, c'était Jésus-Christ dont nous parlons et dont nous célébrons la venue. Parole incarnée. Il a dit, ce sera un homme. Ma parole viendra par une personne. Cette parole sera le verbe incarné. Voilà le mot. Incarné, le corps, ils doivent le recevoir, parce que c'est un corps humain, il va recevoir un vrai, pas une imitation, mais un réel corps humain, donc il le recevra d'une jeune fille, vierge, nommée Marie, et donc dans la chair, il est fils de David, mais avant cela, et dans la pensée de Dieu, il est la parole incarnée de Dieu, le Verbe. Dieu qui veut parler, qui a voulu parler, qui a fait sortir le peuple d'Israël pour lui parler, eh bien, il veut encore lui parler. Et il veut encore nous parler. Cette fois-ci, quand Dieu descend, quand le Verbe, la parole descend vers le peuple, eh bien, ce ne sera pas avec le feu, le tremblement de terre, les nuées et tout cela. Mais ce sera quand même un peu impressionnant. Hein. Tout à l'heure, notre frère a lu dans Luc chapitre 2, et j'ai craint qu'il lise mon passage, mais bon, Dieu l'a préservé. Et voilà. Donc, on va lire à partir du verset 8. Donc, les bergers. Voilà, et vous aurez, parce que vous êtes venus à l'heure ce matin, ben vous aurez tout le message complet. Alors, regarde, lisez avec moi et puis lisons les détails de ce passage. Hein, parce que, allez, vous regardez les petites crèches, c'est rare où vous trouvez une crèche où c'est juste, où c'est bien fait. Hein. Rares sont les crèches où les choses sont représentées correctement. Mais bon, je ne suis pas dans le commerce, alors voilà, vous êtes tranquille, gardez le vôtre, ça ira. Mais n'oublions pas ce que dit le texte. Il dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voilà le contexte. Scène très pastorale, c'est bien. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Dans l'Ancien Testament, ou même dans le début du Nouveau Testament, quand un ange apparaît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, ils ont vu un homme. Ils ont vu... Ouais, un ange. Un ange, c'est un messager. Il se présente. Mais ici, il nous dit... Il dit... un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est deux choses différentes. Un ange n'a pas de gloire intrinsèque. Quand un ange apparaît, il n'y a pas de lumière de partout. Un ange n'est pas la lumière. Il n'a pas de lumière. Ici, on a et l'ange qui relaie le message, et on a et la gloire de Dieu qui est autour d'eux. Pas autour de l'ange, autour d'eux. Cette gloire, et lorsque nous lisions dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu quand elle apparaît, eh bien, c'est cette gloire, la Shekinah, c'est la gloire qui, quand, au moment de la dédicace du temple de Salomon, tout d'un coup, cette nuit est entrée, elle a envahi le temple, et même les prêtres ont dû sortir, ils ne pouvaient plus continuer avec leurs activités. La gloire de Dieu, c'est envahissant, ça vient, ça existe, ça prend de la place. Je pense que certainement aussi, la gloire de Dieu a apparu, vous savez, là c'est un petit détail, je vous donne gratuit. Hein. Mais quand, vous savez, quand Jésus, on venait pour l'arrêter, et puis il dit, je cherche qui? Il dit, ben on cherche Jésus. Il dit, ben c'est moi. Et quand il dit, c'est moi, tous sont tombés à la renverse. Ben, c'est moi, ne fait pas tomber les gens. Et l'idée a été suggérée s'il n'y avait pas un flash de la gloire de Dieu qui a apparu. Parce que c'est quand la gloire de Dieu apparaît, les hommes tombent. Mais bon, ça c'est gratuit, il n'y a pas de verset forcément, mais il y a le même effet. Mais ici il nous dit, les anges, donc il y a un ange du Seigneur qui apparaît, qui relaie le message, et puis il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu représente la présence de Dieu. Dieu qui veut parler, Dieu qui veut être là, Dieu qui veut, et s'adresse à qui? À des bergers. Pourquoi des bergers? Eh bien, des bergers, ils ont l'avantage de ne pas être compliqués. Ils n'ont pas la tête remplie de plein d'idées de tout le monde, et selon lesquelles ils interprètent ce qu'ils entendent. Vous savez, la difficulté, une fois qu'on a été chrétien, puis qu'on a navigué dans les milieux évangéliques, et on a entendu toutes sortes de choses, après il y a des systèmes de théologie, tout ça, puis alors après on commence, on n'arrive plus à entendre des choses de manière vierge. Hein, et tout est dans un contexte. Mais les systèmes théologiques ne viennent pas de Dieu. Et aucun système théologique ne suffit pour contenir Dieu. ils disent des choses vraies, mais ils ne peuvent pas tout dire. Dieu, notre Dieu est un Dieu infini, il ne rentre pas dans un système. C'est... Et Dieu dit, moi je viens dans ma gloire. Et je marque les personnes de manière personnelle. Et ils savent quand je leur ai parlé. Et ils savent ce qu'ils ont entendu. Vous savez, souvent j'étais en Algérie et puis je trouve des gens qui se disent, je suis chrétien. Ils en savent si peu sur l'évangile. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils ont entendu. Parce que même si on ne sait qu'une phrase de la parole de Dieu, toute la puissance de Dieu est dans cette phrase. Et toute la vie est là. Bien sûr, ce n'est pas pour vous contenter de dire, moi, je connais 3 versets, c'est la parole de Dieu, alléluia. Non, non, si vous avez une Bible dans votre main, vous êtes responsable pour tout ce qu'il y a dedans. Hein. C'est pour ceux qui n'ont pas la Bible, ou dans leur langue, ou qu'ils ne peuvent pas l'avoir, eh bien le Seigneur fait valoir ce qu'ils ont. Dieu n'aime pas les enfants paresseux. Il n'aime pas les enfants gâtés, ni paresseux. C'est pour ça que vous n'avez pas tout ce que vous demandez. Ah. Si, déjà comme ça, on est assez pourri, hein, en tant que chrétien. Mais alors, dans ce contexte, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, les bergers sont conscients de cette présence, et l'ange transmet le message. Un message extraordinaire, notre sœur Renée l'a relaté tout à l'heure, dit « Je vous annonce une bonne nouvelle, et si Dieu dit que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'elle est bonne. » Ce n'est pas seulement une impression que vous pouvez avoir. S'il dit que c'est une bonne nouvelle, il a dit, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Alors, écoutez, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ensuite, il leur donne quelques signes physiques pour leur permettre de vérifier la chose. Quand même, Dieu est bon, hein. Et les bergers sont là et ils reçoivent l'accomplissement. On leur annonce l'accomplissement de la promesse faite à Moïse dans Deutéronome chapitre 18. Je vous susciterai un de parmi vous qui parlera pour moi. Ce sera ma parole. Et ces bergers... Heureusement que ce n'était pas trop compliqué, mais ils ont eu la bonne réaction. Ils ont dit, ben, écoutez, c'est des choses extraordinaires qu'on entend. On va aller vérifier ce qu'on peut vérifier. Et donc, ils partent à Jérusalem. Et puis, quand c'est terminé, ils nous disent à la fin, au verset 20, il dit, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Il a dit, on a entendu des choses extraordinaires, et puis on a pu aller contrôler, et c'est vérifié. Donc ce qu'on a entendu, c'est du vrai. Il nous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Cette parole de Dieu, qui n'est pas seulement des pensées, mais qui est la pensée de Dieu, qui transmet les sentiments de Dieu, son amour pour nous, qui exprime sa volonté, son désir, et qui contient en soi les capacités de le réaliser, c'est ce que Dieu nous donne. Tout est là dans le package. Le colis est complet, tout est là. Et c'est pour nous. Cette parole que Dieu voulut donner au peuple d'Israël en sortant de l'Égypte, ça les a marqués d'une certaine manière. Cette parole est venue et pendant 30 ans, elle a circulé parmi les hommes de Palestine ça leur a pris du temps pour se réveiller. Il y en avait très peu à la croix, encore moins devant la tombe. Mais au bout de 50 jours, quand les choses ont commencé à pénétrer leurs pensées, et quand Pierre se levait à prêcher, tout d'un coup, il y avait des milliers qui ont cru. Le fruit de l'œuvre de Christ. Cette parole a enfin pénétré dans leur cœur. Et l'Église de Christ s'est créée. La parole de Dieu qui était descendue à Horeb, la parole de Dieu qui est descendue en Jésus-Christ, le Verbe incarné. Et dit cette parole, eh bien, serre-la dans ton cœur afin de ne pas pécher contre ton Dieu. Qu'elle laisse en toi une impression indélébile. L'apôtre Jean, et on va terminer avec ce premier chapitre de l'évangile de Jean, pour lui, il n'y avait pas d'autre manière de le dire, puisqu'il traitait de la divinité de Christ, donc il ne pouvait pas parler de la crèche et des bergers, tout cela, ça ne faisait pas partie de la divinité de Christ, ça faisait partie de l'humilité de Christ. Mais alors il aborde la partie divine de Christ, sa déité, et il commence au verset 1, il dit « Au commencement était la parole, ou le verbe, ou le logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il dit « La parole de Dieu, c'est une personne. » Ce n'est pas juste un son, ce n'est pas juste un poème, mais c'est une personne. Et quand on la reçoit, on devient responsable. Il dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, et puis il parle de Jean, il continue, et on arrive au verset 14, il dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit, cette parole, c'est une personne, et vous l'avez vue, et elle était pleine de grâce et de vérité. Et elle peut apporter, et quand elle pénètre votre vie, elle transforme tout. Et il dira au verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, la vie, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole a la capacité en elle de pénétrer dans une personne, dans votre vie, et de faire de vous un enfant de Dieu. Peut-être que cette chose s'est déjà arrivée une fois. Mais après un certain nombre d'années, comme Moïse a dû le rappeler au peuple d'Israël au bout de 40 ans, il leur a dit, vous vous souvenez quand il vous a parlé? Peut-être que vous avez besoin ce matin que je vous rappelle. Souvenez le jour où il vous a parlé la première fois. Et quelle était l'impression qui était restée avec vous? J'étais prêt à mourir pour lui. Mais maintenant, j'ai du mal à vivre pour lui. Mais c'est le message de Noël. C'est le Verbe incarné. Pas seulement le petit bébé Jésus. J'aime pas ces représentations qu'on trouve trop souvent. Un peu ça va, mais pas trop. Ou soit il est toujours dans l'état faible. Jésus est toujours ou dans les bras d'une jeune femme, donc incapable de faire quoi que ce soit, il est porté partout. Ou bien il est cloué sur une croix. Bon, même dans son état le plus faible, il était plus puissant que Satan, il l'a vaincu, il a écrasé sa tête. Hein, donc voilà, c'est pas un, même, c'est beau quand même. Mais Jésus n'est pas comme ça maintenant. Il est dans sa gloire. Et cette parole est libérée. Personne ne peut l'enchaîner. Sinon, eh bien, par ma volonté, je peux dire, je ne veux pas entendre. Et vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et ça reste vrai pour vous en tant que chrétien toute votre vie. Ce n'est pas parce qu'on est de nouveau plusieurs fois, mais c'est parce que cette œuvre continue. Elle me transforme ma vie. C'est cette sanctification qui me transforme à l'image de Jésus-Christ, qui est sa volonté. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous dites, Steve, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais? J'aimerais. Eh bien, si vous n'avez jamais fait, eh bien, vous dites Jésus-Christ, avant la fin de l'année, même peut-être avant la fin de la journée, eh bien, moi, je veux me tourner à Dieu. Je vais parler dans mon langage, avec les paroles que j'ai. Et même si vous n'arrivez pas à faire les sons, vous n'arrivez pas à articuler des pensées, mais vous dites, mais Dieu, j'ai... Ah, mais je voudrais que tu me parles, que te... cette parole-là, qui était sur le mont Sinaï, et celle qui a été révélée à Bethléem ce soir-là, je voudrais que cette parole pénètre ma vie, me transforme. Et Dieu ne demande pas plus, il le veut depuis longtemps. Et il a tout fait pour pouvoir le faire. Christ est déjà mort. Si c'est avec le temps, les choses se sont tassées dans votre vie chrétienne et vous vivez plus selon les traditions chrétiennes que selon la vie chrétienne, et bien alors, écoutez, sur les ordinateurs, il y a rafraîchir. Hein, remettre tout en place. Écoutez, allez vers Dieu et le Saint-Esprit, là, il ne demande pas mieux. Et puis... il réinstalle tout. Hein, il met comme ça venait de l'usine, hein, le programme de base, et vous retrouvez votre vie, votre désir de vivre pour lui. Et que ce soit vrai pour cette période de Noël. Que ce ne soit pas un Noël comme les autres, mais que ce soit un Noël avec un sens. Hein. Prions. Père Céleste, ta parole est bonne, ta parole est riche, ta parole réjouit celui qui veut t'entendre. Elle rend fertile le terrain aride. Et Seigneur, aie le cœur aride, et bien qu'il y ait une fraîche rosée. Père, tu connais le besoin de chacun, nous sommes tous différents, mais tous aimés par toi. Et quand tu es mort pour chacun d'entre nous, sans exception. Et ne connaissant rien sur la plupart des personnes ici, Seigneur, je peux le dire parce que toi, tu l'as déclaré. Aucun pécheur n'est trop grand pour toi. Et aucun chrétien n'a été assez infidèle pour ne pas pouvoir revenir à toi. Père, nous te prions, parce que nous savons que c'est ta pensée et parce que aussi tu es glorifié par cela. Et c'est au nom, Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, ton bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur, que nous prions.